pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Lâchez nos utérus.
C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au féminisme.
Popol Show, le podcast d'actualité de Popol Media. Le média qui propose un regard féministe sur la politique.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Show, le deuxième épisode de la nouvelle saison de Popol Show, votre podcast d'actualité politique préféré. Le podcast d'actualité politique de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonsoir à toutes et à tous, celles et ceux qui nous écoutent. Nous allons parler de deux thèmes d'actualité ce soir, politique bien entendu. On va parler de l'IVG dans la Constitution dans un premier temps, et puis on reviendra sur le salon de l'agriculture, puisque c'est un moment qui est un grand moment dans l'actualité politique, sociale, culturelle française. Et on a pas mal de choses à dire, parce que ça a été quelque peu bousculant et bousculé pour certains. J'ai le plaisir ce soir d'avoir trois invités de qualité pour discuter politique avec moi. Déjà, Alma Dufour. Bonsoir Alma.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va pas trop mal. C'était une semaine chargée avec quelques bonnes nouvelles, dont une dont on va parler très très rapidement. Écoute, ça va pas trop mal, mais je suis quand même globalement très inquiète sur l'état de notre pays avec tous les gens de la circonscription qui ont vraiment du mal à s'en sortir, les annonces de coupes budgétaires qui arrivent. Bref, là, ça va bien parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, mais l'ambiance générale, on va pas se mentir, elle est plutôt morose.
On est bien d'accord. Tu parlais de circonscription. Pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, s'il te plaît ?
Bien sûr, excusez-moi, je suis députée donc, de la France Insoumise, de la Seine-Maritime. Je suis députée de la banlieue industrielle de Rouen. Enfin, c'est comme ça que je résume ma circonscription. Donc, une circonscription très populaire, avec beaucoup d'usines dont on est très fiers, mais aussi beaucoup de problématiques de chômage, de pauvreté. Et la situation sociale était déjà très difficile avant la crise de l'inflation. Alors, vous imaginez depuis 2 ans le tour que ça peut prendre. Et on est aujourd'hui confronté à des situations qu'on n'aimerait vraiment pas voir. Et on essaye d'aider au quotidien les citoyens et les citoyennes. Et par moments, même en tant qu'élu de l'opposition, on se sent assez démuni et on fait le maximum, en tout cas, pour être aux côtés des gens et leur donner confiance en certains, en tout cas, des représentants politiques.
Merci beaucoup, Alma. Est-ce que tu veux bien revenir un peu sur ce que tu faisais avant d'être députée ? Parce que ça aussi, c'est intéressant quand même.
Tout à fait. Alors moi, je n'ai pas un parcours politique, on va dire classique, je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas, je ne viens pas du milieu politique, je n'ai pas fait mes armes dans un parti, dans un mouvement, etc. Moi, j'ai été militante écolo depuis une dizaine d'années, sur une ligne assez radicale, assez sociale, justement, à essayer de créer des ponts entre les enjeux sociaux et environnementaux, justement pour des gens comme les habitants de ma circonscription, des ouvriers, des usines, des réseaux, des gens qui n'ont pas de transport en commun, qui galèrent, qui ne peuvent pas aller au bout autrement qu'en voiture et qui, quand l'essence passe 2 euros de litre, se privent de nourriture, hein, c'est ce qui arrive chez moi. Et donc, ça c'était mon combat premier, c'est la lutte contre le changement climatique, mais d'une manière qui soit équitable et juste et donc acceptable pour l'ensemble de la société. Et ensuite, sont arrivés les Gilets jaunes, et qui ont été une claque, un bouleversement pour moi à titre intime même. J'ai vu ce mouvement se réveiller que moi, je n'avais jamais connu. Une telle ferveur populaire, des gens si divers, etc., qui se battaient pour un horizon de justice sociale tellement fort, et j'y ai participé. Et c'est dans le cadre de ce mouvement-là, ayant été victime comme bien d'autres personnes de violences policières, que j'ai un peu décidé de sauter le pas de l'engagement militant à l'engagement politique, et que j'ai décidé de rejoindre la France Insoumise pendant la campagne présidentielle de 2022. Voilà.
Super, et tu as été donc élue députée dans la foulée. Merci beaucoup, Alma. Deuxième invitée de ce soir, Gaëlle Barjou. Bonsoir, Gaëlle.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment vas-tu ?
Ça va, je dirais que je suis un peu dans le même état d'esprit qu'Alma. Il y a quelques petites victoires, mais vraisemblablement des énormes luttes à mener. Donc vraiment moyen. Mais très heureuse de pouvoir partager mon point de vue et partager avec vous trois les analyses de la semaine et de la clôture ensemble.
Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent, s'il te plaît?
Alors, je dirais que mon job principal, c'est d'être la maman solo de 4 enfants, des grands ados, et puis le petit dernier, il a 4 ans. Je suis là, je crois, parce que je suis une militante féministe. Malheureusement, comme Alma, j'ai l'impression que parfois ça se radicalise parce qu'on prend des chocs. Et que donc, voilà, moi, j'ai été choquée par notamment les violences d'État, les violences policières. Et donc, je suis dans le collectif Justice pour Cédric parce que c'est un ami d'enfance et aussi parce que de toutes les façons, c'est une lutte collective et qu'on doit y mettre fin. Et voilà ce que je peux dire sur moi. Je suis une rescapée de la finance parce que j'ai eu un job avant. Et je m'occupais de partage de valeur ajoutée. Donc voilà, donc je peux être intéressante sur ces sujets.
Eh bien, carrément, tu sais quoi, je note, parce qu'il n'est pas exclu qu'on y revienne au cours de nos discussions. Tu pourras peut-être nous apporter tes éclairages valeur ajoutée, qui est une belle valeur ajoutée, ceci dit. Pardon. Enfin, troisième invité de la soirée, parce qu'en fait, on est en train d'enregistrer le soir, mais vous êtes en train d'écouter le podcast aussi le soir, puisqu'il sera à 19h le dimanche soir. Troisième invité de ce soir, Adèle Barber. Salut Adèle.
Salut Léa, je suis ravie d'être là. Ça fait un bon moment qu'on essaye avant même qu'on soit collègues sur Backseat et donc je suis contente de réussir enfin à participer à Popol, c'est trop bien.
Carrément, bah écoute, sois la bienvenue, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi également s'il te plaît?
Alors moi je vais super bien, je trouve que l'ambiance politique est au top, je suis très optimiste, enfin tu vois, un jeu
mais oui.
Vital, tu vois, avec une telle vitalité, moi ça me remplit de joie, j'y crois énormément. Non, tout cela est donc faux, je suis dans le même état d'esprit que mes collègues ce soir, c'est juste que moi j'essaie de faire des blagues parce que je trouve que tout est un petit peu lourd, complexe, parfois très pesant, et je trouve, en tout cas c'est ma façon d'aborder les choses, voilà, de transmettre ou de partager mes atermoiements et parfois juste mon désespoir de manière peut-être humoristique, en tout cas moi ça m'aide à survivre. Ce monde qui me donne vraiment parfois envie de me barrer très loin. Mais barrer très loin, je l'ai fait. Et en fait, j'étais aux États-Unis. Et là, on voit, il y a une année électorale qui se présente. C'est pas jojo non plus. Donc voilà, on va plutôt faire des blagues. Et donc, je suis la saltimbanque, notamment de l'émission Backseat, où je donne l'avis, mon avis, dans l'avis d'Adèle, et où je fais des blagues, je roaste l'invité politique de la semaine. Et je crois que Alma l'a un petit peu subi il y a quelques temps quand elle est venue dans l'émission.
Quand j'étais à la fois influenceuse, animatrice, et que limite j'allais ouvrir un kebab, je crois, tout en étant politique, ça m'avait fait rire.
Ben parce que oui, ben ton parcours est assez incroyable, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de choses à raconter, donc effectivement, je trouvais ça marrant d'appuyer sur ce point. Et donc, voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, je pense.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles et ceux qui ont envie de se marrer un peu?
Ah oui, je fais aussi des blagues hein, sur les scènes parisiennes. Je joue au Paname et là, je suis en train de travailler sur un spectacle un petit peu plus long de 30 minutes où je ne parlerai pas que de politique. Juste, ça viendra en petite touche, mais je parle peut-être aussi de mon époque, de ma génération, de ce qui se passe peut-être dans le corps d'une femme. Enfin, en gros, j'adore parler de mes ovaires vieillissants. Et ça, c'est en cours de travail. Donc, vous retrouvez-moi sur les réseaux. Adèle Barbers. Adèle, comme la chanteuse Barber, comme Barbershop avec un S à la fin, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Et je suis sur tous les réseaux sous ce nom. Et je donnerai toutes les informations pour venir me voir sur scène.
Super, merci beaucoup Adèle, merci beaucoup à toutes les trois, c'est donc un plaisir de vous recevoir pour parler de deux thèmes d'actualité politique, je vous le rappelle, IVG dans la Constitution et Salon de l'Agriculture. Commençons par le premier. Mercredi, donc le 28 février, les sénateuries ont enfin voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution en consacrant une rédaction un peu particulière, on y reviendra. Le texte voté par le Sénat cette semaine est écrit de la sorte, pardon, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Victoire, certes, victoire pour tous les politiques, tous les responsables et toutes, surtout, politiques qui ont travaillé sur ce texte, qui se sont démenés pour faire en sorte que l'inscription de l'IVG soit enfin actée. Le Parlement va donc se réunir en congrès, lundi prochain, le 4 mars, donc demain pour celles et ceux qui écoutent le podcast le dimanche soir, afin de voter en 3/5 cette inscription, valider cette inscription dans la Constitution. C'est une victoire. Alma, je te donne la parole en premier, puisque de mémoire, c'est une victoire qu'on doit aussi en partie à la France Insoumise, puisque c'était un texte qui avait été déposé par ton groupe à l'Assemblée parlementaire. C'était d'abord une proposition de loi qui a finalement été reprise en projet de loi par le gouvernement pour notamment éviter le référendum et faire passer la disposition en congrès. La rédaction du texte était totalement différente, mais peut-être qu'on y reviendra après. Sur l'aspect stratégie et victoire politique, comment tu as vécu les choses, toi, de ton côté ?
Ouais, mais tu as très bien résumé, Léa. Je pense que c'est important de résumer parce que la Ve République est ainsi faite qu'il y a beaucoup d'arcanes à maîtriser, à connaître, à comprendre, pour comprendre à quel point, effectivement, le gouvernement a la main face au Parlement quand il s'agit de mener un texte jusqu'à son terme. Et donc, là, évidemment, un texte qui modifie la Constitution a fortiori. Je pense que tout le monde, depuis les retraites, maintenant toute la France, a bien compris ce que c'est qu'un 49-3, hein, parce que ce qui n'était pas forcément présent dans la tête de beaucoup de gens, c'est-à-dire un passage en force, qu'il est quasiment illimité sur les questions budgétaires. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que c'était... C'est une bataille, donc la constitutionnalisation de l'IVG est une bataille que mène la France Insoumise depuis plusieurs années, même depuis la mandature précédente. On avait déjà déposé une proposition de loi qui avait été balayée d'un revers de main, puisqu'à l'époque, on nous opposait que le droit à l'avortement n'était pas menacé, ne serait jamais menacé, etc. etc. Les arguments qu'on a continué d'entendre dans la bouche de Gérard Larcher, le président du Sénat, il y a encore quelques jours. Et donc, nous sommes revenus dans notre niche parlementaire de la première, c'était le premier texte, donc on en a fait une priorité absolue. Et effectivement, le gouvernement nous a emboîté le pas et a décidé de permettre à ce texte d'aller jusqu'au bout. Et en fait, il n'est pas encore adopté définitivement. Lundi, nous avons un rendez-vous avec l'histoire, puisque lundi, nous nous réunissons en congrès. Attention, un nouveau mot que les gens ne vont pas comprendre, mais c'est-à-dire que les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, se réunissent au même endroit à Versailles, ça va être ambiance, pour voter effectivement la constitutionnalisation de l'IVG dans une rédaction malheureusement qui n'est pas celle que nous voulions au début, mais nous avons échappé au pire, ce que je précise quand même qu'il y a encore quelques jours, Gérard Larcher, donc le président du Sénat, avait carrément dit qu'il était contre, tout simplement, la constitutionnalisation de l'IVG. Et j'y reviendrai peut-être, mais CNews nous a rendu un fier service, à mon avis, malgré eux, c'est-à-dire que comme ils ont, à heure de grande écoute, diffusé une émission violemment anti-IVG à plusieurs reprises, je crois que tout le monde a réalisé en fait que même dans un pays comme la France, ce n'est pas dans un futur si lointain qu'on pourrait avoir un gouvernement qui veuille vraiment supprimer ce droit ou en tout cas le restreindre fortement.
Oui, c'est clair. On reviendra effectivement sur l'aspect rédactionnel parce qu'à mon sens, il est encore problématique, bien que symboliquement, cet acte est très fort, notamment dans un contexte effectivement où le droit et le recours à l'avortement est quand même assez menacé. Est-ce que tu peux juste préciser quelle était la rédaction qui avait été proposée, si tu t'en souviens de par cœur, sinon on ira la retrouver, par LFI, parce qu'il y avait quand même... Pour une fois, il faut bien quand même le dire, le gouvernement et la majorité avaient été relativement fair play parce qu'il y avait deux textes en concurrence à l'époque. Il y avait aussi celui d'Aurore Berger qui avait retiré le texte au profit de la proposition de loi de LFI qui était rédigée en des termes différents puisque c'est le Sénat qui, par la suite, a modifié le texte. Est-ce que tu peux revenir sur cette petite historique, s'il te plaît?
Malheureusement, en détail, je ne m'en souviens plus là tout de suite. Il faudrait que je la retrouve.
Mais il n'y avait déjà pas le terme femme, c'était toute personne.
Voilà, et effectivement.
Très important, et pas liberté, on parlait de droit.
Exactement. Et donc, du coup, c'était deux points absolument fondamentaux, et notamment sur la question de la définition de femme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le Sénat inscrit dans le marbre, en fait, la question comment expliquer ça, enfin, comment trouver les mots. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse de considérer la question que des gens puissent changer de genre qui leur a été assigné à la naissance et puissent revendiquer des droits liés à l'avortement, liés à la grossesse, etc. etc. Et donc, du coup, pour nous, c'était un recul par rapport à la reconnaissance des droits des personnes, notamment transgenres. Et donc, on a voulu jusqu'au dernier moment le garder, mais vu déjà que Gérard Larcher n'était même pas favorable à la rédaction où il y a le mot « femme » marqué, vous imaginez bien que ça a malheureusement dû être une concession pour que ça puisse aboutir jusqu'à son terme.
C'est notamment du compromis. J'ai retrouvé, pardon Alma de t'interrompre, mais j'ai retrouvé donc du coup le texte tel qu'adopté par l'Assemblée. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui à mon sens était une rédaction beaucoup plus... Bref, louable, mais on y reviendra, excuse-moi.
Et c'est vrai qu'il y a aussi le terme effectivité et égal accès qui ont disparu et qui sont en fait déterminants dans la manière dont le Conseil constitutionnel contrôle en fait à la fois la loi et son texte, mais aussi sa mise en application, puisque le Conseil constitutionnel maintenant, et depuis quelques années déjà, contrôle aussi la constitutionnalité d'une loi dans son application. Donc le fait de mettre effectivité et égal accès, ça veut dire quelles sont les conditions pratiques dans lequel en France aujourd'hui le droit à l'avortement est respecté. Le fait d'avoir fait sauter ces deux définitions rend le contrôle plus léger, on va dire. Ça amenuise la possibilité de contrôle de la matérialité du respect du droit à l'avortement en France.
Bien sûr, bien sûr. Gaëlle, toi, en tant que militante féministe, puisque c'est ainsi aussi que tu te décrivais en introduction de ce podcast, comment tu as accueilli ce vote mercredi soir ?
Alors moi, j'ai eu la chance de regarder les 3 heures de débat sur la chaîne parlementaire. Et donc, en effet, je dirais qu'il y a quand même une victoire symbolique, même si j'ai bien le sentiment qu'en disant symbolique, je l'amoindris. Mais ce que j'ai vu et ce qui m'a quand même fait plaisir, c'est de voir que quand les femmes décident de prendre un sujet politique, ça devient transpartisan. Je n'ai pas vu une seule femme dans l'hémicycle du Sénat s'exprimer contre, sauf une dame un petit peu, quand même, j'ai du mal à comprendre, hein, celle qui s'oppose, une dame du LR. Et ça fait plaisir ouais, de voir quand même que quand on n'est que des femmes, en tout cas, ça a l'air de mieux fonctionner. Et par contre, c'est en danger. Et je crois qu'il y a vraiment un truc sur la liberté et le droit, parce qu'en effet, une liberté n'est pas opposable. Après, il y a le terme garantie, peut-être, qui fera qu'on peut jouer sur ça un petit peu. Mais ça ne dit pas que toutes les femmes vont avoir accès à l'IVG, qu'il n'y aura pas encore des problèmes de discrimination territoriale. Mais ça dit que c'est une victoire des femmes et qu'on sait bosser ensemble et qu'on est plus efficace, c'était ça qui m'a fait du bien moi, voilà.
C'est sûr qu'il fallait pas compter sur Gérard Larcher vraisemblablement pour garantir ce droit effectivement. Ouais.
Et oui et pardon, j'ai quand même entendu Stéphane Ravier, hein, faut quand même parler de ce monsieur hein, qui s'est exprimé comme quelqu'un. Alors là on parle d'hystérie féminine, mais je veux dire on est en plein transfert, hein, s'il a un petit problème avec ce sujet. Et en effet, je pense que ces sujets-là sont en danger dès lors qu'il y a une poussée d'extrême droite. Voilà. Moi, je vis à Tours et autant vous dire que les jeunes entre 18 et 24 ans veulent des femmes blanches qui portent des bébés et voilà. Donc, il y a des soucis à se faire.
Ouais, et puis en plus, quand on a un président de la République qui parle de retour au réarmement démographique et qui vraisemblablement émet le souhait pour en plus quand même ses vœux hein, à la nation, émet le souhait de mener une politique nataliste. Bref, Alma, tu voulais faire une petite insertion avant qu'on donne la parole à Adèle.
Une petite insertion parce que Gaëlle m'a tendu la perche sur l'extrême droite et donc sur le Rassemblement national. Faut quand même préciser qu'une partie des députés du Rassemblement national avait voté contre la proposition de constitutionnalisation de l'IVG. Pas l'ensemble du groupe, mais une partie quand même assez conséquente qui a quand même aussi révélé ce vrai visage. Il y en a, on va dire, Alexandra qui avance un visage masqué, d'autres moins. Et dans le grade du groupe RN, où il y a quand même plus de 80, il y a 80 députés, plus de 80 députés, 89, on voit en fait certains profils qui sont clairement et qui l'assument. anti-féministe et contre les droits des femmes. Et effectivement, il faut aussi souligner que tu as très justement parlé de réarmement démographique dans la bouche de Macron, mais tout le programme économique du RN, notamment par exemple sur la réforme des retraites, ne reposait que sur l'idée de pousser les femmes à faire plus d'enfants. Donc, ils n'ont pas d'autres idées économiques, puisqu'en plus, ils veulent chasser la main-d'œuvre de gens qui viendraient d'étrangers, etc., que de nous. Ça, c'est ça aussi leur projet. Donc, c'est tout à fait juste de dire que s'il y a une poussée de l'extrême droite, le droit à l'avortement est réellement menacé en France et que ce n'est pas un fantasme de féministe.
Oui, par ailleurs, nos voisins nous offrent, hélas, de bien tristes exemples, que ce soit avec Orban en Hongrie, avec Meloni en Italie, etc., etc. Donc, effectivement, il faut savoir être vigilant et vigilante. Donc, dans ce contexte, par ailleurs, hein, de pousser l'extrême droite, que ce soit au niveau national, européen, même international, et aussi de menaces au niveau, enfin, sur le plan international de l'accès à l'IVG, on peut quand même se dire que, effectivement, le symbole, bien que, on l'a compris, hein, ça ne permettrait pas effectivement à toutes et à tous de pouvoir effectuer, à toute personne, pardon, de pouvoir accéder à l'IVG de manière effective, alors que c'était la volonté initiale, en tout cas des parlementaires, des députés qui avaient adopté le texte en ces termes. On peut quand même considérer dans une certaine mesure que le message politique est fort et que c'est une bonne nouvelle, Adèle ?
Oui, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle.
Toi qui adore les bonnes nouvelles.
Ouais. Après, moi, j'ai une petite passion Sénat qui est très ancrée en moi. Et je me réjouis vraiment que le Sénat l'ait voté. Et je pense que c'est aussi important de redire que le Sénat aurait pu juste s'y opposer. Pas que je cherche à défendre le Sénat, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a plein de forces au Sénat et que le Sénat n'est pas qu'une vieille chambre de droite, mais que pour une fois, ce qu'on appelle la chambre des sages, certes, alors n'a pas fait exactement ce qu'on voulait, a complexifié une formulation qui du coup a rendu les choses, ben, comme vous l'avez décrite extrêmement bien, plus complexes, un peu excluantes. Enfin, ça ne fonctionne pas du tout comme, enfin, en voulant ménager, j'allais dire la chèvre et le chou, les électeurs de droite et les constitutionnalistes, enfin bref, je pense qu'ils se sont embarqués dans une usine à gaz. Mais mine de rien, on arrive quand même à un truc positif. Mais le Sénat a d'abord refusé, me semble-t-il, le texte en commission, qui est la proposition de loi, pour quand même ensuite, en séance, faire un seul article où ils aient cette proposition de formulation qui n'est pas très loin finalement de celle qui a été reprise par le gouvernement. Et ça, je trouve que c'est pas mal de le dire quand même, parce qu'ils auraient pu juste rester dans leur truc et dire « non, c'est nul, on le fait pas ». Et ils ont quand même ouvert le truc. Et ça me fait un peu plaisir parce que quand même, ils retardent beaucoup les réformes importantes. Non, mais la congélation des ovocytes, la PMA, ça a été hyper retardé par le Sénat, c'est méga relou, mais ils ont fini par le faire. Il n'y a pas longtemps, là, ils viennent de refuser le congé menstruel. Voilà, ça y est, c'est foutu, donc il faudra tout refaire. Mais on a peut-être... Moi, ça me donne de... Je suis positive en ce moment. Ça me donne de l'espoir. Je me dis quand même que peut-être il va se passer un truc pour le futur. Finalement, ça vient quand même. Et je trouve que c'est quand même chouette. Et ça vient avec ce que disait Gaëlle, en fait. C'est aussi peut-être parce que les femmes, ou ce que disait aussi Alma, peut-être quand on met les femmes ensemble et qu'elles font des trucs, c'est cool. Je ne sais pas si mon temps de parole est écoulé ou si je peux continuer, mais... Non, mais je voulais dire, parce qu'il y avait Stéphane Ravier, donc effectivement, vous en avez parlé, ce sénateur reconquête, qui s'est plaint qu'il n'était pas content, il trouvait que c'était nul, le texte, ça n'allait pas, il n'y a rien qui allait. Mais il a dit un autre truc, il s'est moqué des effusions qui ont eu lieu suite au vote au Sénat dans ce qu'on appelle l'entrée de l'hémicycle. Et c'est vrai que moi, j'ai vu les images et je les ai trouvées absolument géniales. Mélanie Vogel pleurait, une autre sénatrice aussi. Il y a beaucoup d'émotions, c'était assez fort. Enfin, on aboutit à quelque chose qui assure une forme de sécurité, même si rien n'est complètement garanti, même si c'est le terme qui est employé. Et moi, le truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu l'image, je me suis dit « Waouh ! Ça va être vraiment des images incroyables sur lida.fr dans 30 ans ou dans 50 ans, comme celles qu'on voit aujourd'hui du discours de Simone Veil. » Et vraiment, je me suis dit, waouh, c'est fort. C'est marrant parce que j'ai trouvé intéressant de voir que le grincheux Stéphane Ravier, pour lui, c'était genre des gonzesses qui ont une effusion et qui chialent. Et je me suis vraiment... Je me suis dit, oui, bon, bah, ok, il faut quand même qu'on protège, parce que c'était quand même la preuve que rien, tout est incertain, et ce qui se passe aux États-Unis l'est encore plus fort, enfin, nous le montre, la possibilité de la remise en cause de droit à l'avortement, qui en plus déjà n'est pas autorisée dans tous les États, enfin je veux dire, c'était pas non plus dingue. Mais là, je trouvais, je me suis dit, ah, ça va faire des belles images. Et le dernier truc que je retiens dans tout ça, c'est quand même que Alma remercie CNews. Et je pense que ça, c'est très important qu'on garde en tête que Alma Dufour remercie CNews pour son travail de terrain. Non, non, mais je rigole, mais je trouve qu'évidemment, c'est un bien sûr et heureusement. Et dernier point, sauf s'il y a un autre tour de table, et peut-être je me tais maintenant et tu couperas au montage. Non, le dernier point, c'est OK.
Tu me fais trop rire.
Non, mais ok, super, la promulgation, enfin le congrès Versailles le 4 mars, et d'ailleurs, Alma, je me réjouis parce que dans une mandature, tu n'as pas toujours l'occasion de vivre un congrès, donc ça, c'est quand même
Moi, je suis trop
vraiment.
excitée là, je suis à fond.
Mais
Je
de
l'attends trop.
tu sais comment tu vas t'habiller? Moi, je penserais qu'à
Ouais, en fait,
Paillettes,
ouais, je
full
suis en train
paillettes.
de. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment on va s'habiller? Ouais, non, non, quel tailleur mettre? Non, non, mais en vrai, non, non, c'est une journée, je suis. C'est pour ça que je disais, malgré tout, malgré l'ambiance ultra, ultra dure de la période sur le reste, avoir l'occasion de vivre ça et de porter ça, et que mon groupe était de fait à l'initiative en plus, c'est une énorme fierté pour moi. Et ouais, ça, c'est vrai qu'une fois dans ma vie, j'aurais vécu ça et c'est très, très émouvant. Ouais.
Oui, c'est sûr, mais il y avait aussi, moi j'avais le sentiment qu'il y avait quand même, au-delà de ce sentiment de victoire et de, comment dire, de pouvoir collectif, parce qu'en fait ça vient de ça aussi, hein, de voir toutes les militantes qui étaient présentes aussi alors soit à distance comme toi, Gaëlle, ou celles qui étaient aussi sur place au Sénat avec les élus, avec les sénatrices et les députés pour soutenir ce vote. C'est vrai que c'était très émouvant, mais moi j'avais le sentiment qu'il y avait aussi comment dire, une sorte de soulagement, parce que au-delà du fait que ça a été une bataille très longue à mener, moi j'ai bossé pour une asso féministe lorsque la PPL a été adoptée, ça a été un énorme travail aussi, hein, en même temps que avec les parlementaires, un énorme travail de plaidoyer, mais aussi main dans la main avec certains et certaines élus, donc c'était assez fabuleux. Mais au-delà de ça, en plus, comment dire, l'actualité récente au niveau international, européen, nous inquiète en fait. Et il y avait ce sentiment de soulagement. Est-ce que toi, Gaëlle, tu as été soulagée par ce vote?
Désolée parce que je vais pas être la plus rigolote. Je crois pas que j'ai été, je crois pas que j'ai été complètement soulagée. Je pense qu'en effet, c'était un bon message. Je pense que vraiment, on parlait d'Alma qui remerciait CNews. Moi, quand j'entends Mélanie Vogel mettre dans la liste des remerciements Aurore Berger, je me dis que vraiment, y a un truc, voilà, qui s'est
Arrêtez de
créé.
dire que j'ai remercié CNews, les gens vont vraiment croire que c'était sérieux et pas
Pardon, Alma,
ironique.
pardon, Alma. Quand on dit qu'on peut, à notre tour, instrumentaliser CNews, ça me fait bien rigoler. Donc, je dirais, oui, je suis soulagée parce qu'en effet, ça fait flipper ailleurs. Et en même temps, je pense que je ne suis pas complètement soulagée parce qu'en effet, la rédaction nous amène quand même toujours à devoir porter la même chose et que moi, je suis beaucoup sur le terrain avec des jeunes femmes et que quand je vois qu'il y a quand même des jeunes femmes qui, encore à 23, 24, 25, n'ont jamais consulté un gynéco, qu'il y a des filles qui vont faire des IVG à profusion parce qu'elles se servent de la pilule du lendemain comme une pilule contraceptive. Bon, voilà, je suis contente, c'est fait. Mais bon, bah, comme on sait chez les féministes et les gens qui luttent, voilà, ça y est, c'est demain et il faut continuer, quoi.
Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je voulais juste qu'on revienne sur la formulation qui, moi, est la partie qui m'inquiète le plus au-delà du fait qu'on parle de liberté et non de droit. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la loi garantit les conditions dans lesquelles on a la possibilité du recours. Parce que concrètement, je veux dire, ça ne met aucune barrière, en fait. Ça ne
Concrètement,
garantit
tu peux même
rien.
réduire le délai légal. Le délai légal.
Exactement. Donc c'est super flippant en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour garantir que ça... Enfin, quels sont les garde-fous? Parce que typiquement, l'extrême droite est au pouvoir plus tard, admettons, même si ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite, mais potentiellement, ça veut dire qu'ils vont dire, bah, en fait, tu as une semaine.
Si je peux rebondir là-dessus, alors après, c'est à l'interprétation du Conseil constitutionnel et donc du coup. plus le texte est flou, plus l'interprétation est variable. C'est-à-dire que garantir la liberté, il pourrait très bien juger que le fait de disposer que d'une semaine pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse n'est pas ce qui veut dire garantir la liberté. Il pourrait quand même casser une loi qui réduirait à la limite de l'impossible les délais pour pratiquer une IVG. Néanmoins, effectivement, c'est quand même entre un mois et les délais actuels, enfin entre une semaine pardon et les délais actuels, voilà, il y a le curseur et ce serait effectivement au Conseil constitutionnel qui est-ce qu'il est de trancher. Donc on n'est pas encore en pleine maîtrise effectivement de ce qu'on veut vraiment. Et ce que tu disais, Gaëlle, c'est vrai, tu as raison, il faut quand même le préciser. Moi, j'étais alertée il y a encore quelques jours par un compte Instagram qui s'appelle Les Éclaireuses, que vous devez connaître aussi, qui me disait avoir été démarchée par des associations qui se font passer pour des numéros verts sur l'IVG, qui sont en fait des associations anti-choix, et qui disent des atrocités, mais vraiment, elle les a enregistrées. Donc aujourd'hui, alors que c'est illégal de faire ça, ils disent des atrocités du genre 80% des couples se séparent après une IVG, tu ne sais pas la dépression qui t'attend, tu vas finir au RSA parce que tu vas être tellement déprimé que tu vas perdre ton travail, enfin des choses, mais il y a des discours d'une violence. Donc effectivement, la question de l'effectivité de l'éducation au droit et de l'égal accès territorial au droit, en plus dans un moment où le système de la santé s'effondre globalement en France, reste effectivement entière et c'est une victoire d'étape, mais on n'a pas du tout gagné la bataille. Et ce que vous avez dit en plus sur l'étranger, moi je suis en partie argentine, voilà, je mesure ce que ça peut être et je reste quand même effectivement inquiète.
C'est clair, merci Alma. Gaëlle, tu voulais préciser quelque chose, après je donnerai la parole à Adèle après toi pour conclure sur ce thème.
Ça va être très très rapide parce qu'on parlait de qu'est-ce que pourrait dire la relecture du texte. Sur le terme garantie, ils se sont échauffés en hémicycle, hein, je crois que c'est le sénateur Bas, je crois, un conservateur.
Philippe Bas, oui,
ouais, bien sûr. Et donc en fait, le terme garantie, il a été conservé. Mais finalement, c'est Marie-Pierre de la Gontrie qui avait répondu en disant qu'en fait, il y avait des droits qui étaient garantis, enfin des libertés garanties, pas garanties. Mais en fait, ce terme garantie pourrait même sauter parce qu'en fait, ça n'est pas très commun dans la Constitution.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...de se servir de ce terme garantie. Donc, je crois qu'en plus, c'est vraiment un truc un peu de sémantique qui nous garantit même pas que ce soit garanti. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire.
Il garantit les conditions, même les pas conditions. Le droit, en fait.
Oui, ouais, en plus. Ouais. Mais j'ai vraiment, en plus, eu le sentiment que c'était un peu du vernis pour avoir des choses à débattre. Donc, voilà. Désolée, je laisse la parole à Adèle.
Adèle, est-ce que tu veux bien conclure sur ce thème avant qu'on s'en tape une bonne tranche en parlant du Salon de l'Agriculture?
Oui, non, pour conclure, en fait, je pense que dans le premier texte, il me semblait qu'il y avait aussi une référence à la contraception. Et je pense que c'est vachement important qu'on en parle et qu'on légifère plus dessus et qu'on redise et redise et redise que l'IVG, c'est vraiment la dernière solution, quoi. C'est vraiment quand on n'a pas eu le choix, c'est pas une méthode contraceptive, c'est pas un truc qu'on prend à la légère, c'est pas un truc cool. Et ça, c'est vraiment un truc de bonhomme, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'une fausse couche, ils savent pas ce que c'est qu'une IVG, ils savent pas ce qui se passe en fait. Et donc c'est pas des trucs qu'on fait à la légère pour le fun. Et vraiment, je sais pas, il faut le redire et redire, quoi. C'est ma conclusion, petit coup de gueule.
Oui, la nécessité d'accompagner, bien sûr, l'accès à l'IVG, à évidemment de l'information sur la contraception, sur aussi la prévention, des IST aussi, parce que bah il y a plein de choses qui sont évidemment pas faites par ce gouvernement, et la santé sexuelle et reproductive est un est un tout commun, en fait. Mais oui, c'est sûr qu'il y a, encore beaucoup, beaucoup à faire et que ça aurait peut-être mérité un texte, peut-être en, bien entendu, plus ambitieux, mais aussi plus, enfin, plus ambitieux dans le concret et dans l'accès, à l'information. Dans la, tu parlais aussi tout à l'heure, Alma, de l'asso qui t'a contacté sur les anti-choix qui font de la désinformation. Enfin, ça, c'est gravissime. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire en dehors de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et je pense que le planning familial pourrait être... une très bonne ressource en la matière.
Et il faudrait qu'il y ait des ressources supplémentaires. Et là, on tombe sur l'aspect financier des choses, qui est toujours, toujours le nerf de la guerre, et vous le savez aussi bien que moi, et dans lequel 49.3 pleuve comme des petits pains. Donc, du coup, la question de la mise en œuvre budgétaire de tous ces droits reste entière tant qu'on ne mettra pas les moyens supplémentaires pour que ce soit effectif pour tous.
Exactement. Bien, bien. Merci beaucoup. Donc, du coup, on a grave débordé parce que évidemment, on s'est emballé sur ce texte et sur cette thématique puisque c'est historique, il faut bien le dire. Ce n'est pas parfait, mais c'est historique et ça méritait qu'on passe plus de temps que prévu dessus. Donc, merci beaucoup. Peut-être, on fait vite alors, mais on peut pas ne pas parler du salon de l'agriculture. Du coup, encore une fois, là, je suis désolée, mais Alma, t'es là. Il y avait un texte qui a été déposé par LFI sur les prix planchers. Enfin, il y a plein de choses. Bref, on fait pas l'historique parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, salon de l'agriculture, énorme shitstorm pour Macron et son gouvernement, un bordel absolu, Bardella en mode up, tout le monde m'adore. Mais alors, est-ce que vraiment derrière, tout le monde l'adore, c'est pas si sûr. Marion Maréchal qui fait des photos en mode selfie avec tout le monde, mais qui s'est pris une énorme pinte de bière sur la tête après, et ça, elle a pas montré, évidemment. Donc, beaucoup aussi d'utilisation d'images en mode regardez comment on est sympa, etc., etc., parce que c'est aussi ça le salon de l'agriculture. Bref, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette séquence politique ? Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça a été une énorme séquence politique et ça l'est encore. En tout cas, pour permettre aux agriculteurices de vivre décemment de leur travail. C'est ça la vraie question, en fait.
Donc, ce que révèle cette crise, il y a en fait une crise qui couvre depuis une dizaine d'années. Ça a fait une dizaine d'années sur le fait, qu'on s'assoit sur le fait que les gens qui nous nourrissent, en tout cas, une partie des gens qui nous nourrissent, c'est assez conséquent, vit sous le seuil de pauvreté. Je crois un agriculteur sur cinq. Dans certaines filières comme l'élevage, c'est un sur trois. Et que politiquement, ce n'était pas un sujet. Ça fait une dizaine d'années, donc on laisse ce sentiment de relégation, ce sentiment de travailler très dur, parce qu'en plus, il faut dire le travail que c'est d'être agriculteur, quoi. C'est du 70 heures semaine. On est quand même sur des boulots excessivement pénibles et mal payés pour certains. Il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, on sait tous, et c'est les céréaliers versus les éleveurs, les maraîchers, tout ça. Bref, néanmoins, c'est une profession en grave crise, alors que c'est une profession, si ce n'est peut-être la plus essentielle à notre survie collective. Il a fallu qu'ils, comme d'habitude avec le gouvernement Macron, ils montent dans le rapport de force, sinon ils n'étaient pas entendus, parce que ça fait des années qu'on les balade, on leur a fait une loi Egalim 1 qui ne sert à rien, on est revenu avec une loi Egalim 2 qui ne sert toujours à rien, puisqu'en fait, l'État ne tranche pas en dernier ressort quand il y a un désaccord entre l'agro-industrie et le paysan, et c'est bien ça le problème, et c'est d'où la proposition de prix plancher. Qu'est-ce que c'est notre proposition qu'on porte depuis le mandat précédent, mais là, en novembre, on l'a remis dans notre niche, donc encore à la France Insoumise, c'est que l'État fixe le prix si les agro-industriels jouent au plus malin et au gros rapport de force avec les producteurs, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par exemple dans le cas de Lactalis, qui n'est pas d'accord avec le prix demandé par les producteurs laitiers, et ça fait 3 mois qu'ils bloquent, et que 3 mois qu'ils les payent au prix du mois de novembre. Vous imaginez, en plus avec l'inflation, enfin, c'est désastreux. Donc on disait, en fait, si en cas de désaccord, c'est l'État qui reprend la main, et qui fixe un prix déjà au-dessus du coût de production, parce qu'il ne s'agit pas de vendre à perte. Pendant plusieurs années, les laitiers vendaient à perte. Ils gagnaient moins qu'un SMIC, c'était hallucinant. Mais aussi avec une marge qui leur permette de survivre, quoi. L'idée, c'est d'avoir un prix juste. Et après, le problème, c'est que ce qu'ils nous répondent, c'est que si vous faites ça, les prix vont encore plus augmenter dans les supermarchés. Oui, sauf que nous, on propose en parallèle de réduire les marges de ceux qui profitent vraiment du système, parce que ce n'est pas les Français aujourd'hui, ils payent leur alimentation 20% plus cher. C'est quand même un paradoxe, c'est que la crise des agriculteurs, elle éclate au moment où les Français n'ont jamais payé l'alimentation aussi cher au supermarché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a l'agro-industrie qui, elle, et ce n'est pas la France qui l'invente, fait des marges absolument historiques qui sont prouvées par l'INSEE. C'est-à-dire que c'est eux qui empochent tout ce que les Français mettent au supermarché en plus, et ils ne reversent pas du tout, ils ne le reversent pas du tout aux agriculteurs. Donc c'est un système à deux étages, un plancher pour les agriculteurs et un plafond pour les marges des agro-industriels. Or, Macron a prononcé le mot prix plancher, et en fait, il y a eu un rétro-pédalage qui fait que la tension ne s'est pas du tout apaisée au salon de l'agriculture, à mon avis, là, de ces derniers jours. C'est qu'en fait, il balade comme d'habitude les secteurs professionnels, il dit prix plancher, puis il y a son ministre le lendemain qui dit ah non, c'est pas des prix planchers, on le laisse aux bolcheviques. En gros, non, on va améliorer encore un peu à la marge la loi qui existe déjà. Et donc, ils perdent complètement confiance dans la parole du gouvernement. Et il y a le deuxième sujet, qui est évidemment la concurrence déloyale, puisque pendant le salon de l'agriculture, l'Union européenne et les députés macronistes au Parlement européen et les groupes, de tous les groupes, y compris l'extrême droite, le groupe auquel appartient le RN et le groupe auquel appartiennent, par exemple, les socialistes ou les Verts, pas les Français, mais en tout cas leur groupe en majorité, votent encore pour les traités de libre-échange à l'heure actuelle, au moment du salon de l'agriculture et au moment de l'explosion de la crise agricole. Donc, on a un vrai sujet d'hypocrisie qui rend fou les agriculteurs. Et je pense que c'est pour ça que, malgré les annonces, comme personne n'y voit clair et plus personne ne fait confiance au gouvernement là-dessus, et ben ça continue et la tension continue de monter.
Avant de revenir sur la question des prix planchers, parce que je me dis que c'est quand même l'occasion de profiter des lumières de Gaëlle sur cette question, je sens qu'elle va être très très intéressante là-dessus. Je voulais quand même revenir sur la partie vraiment politique, rapport de force, enjeu pour les élus. Adèle, toi quand même qui connais un peu LR depuis un petit moment, je veux dire, le salon de l'agriculture, c'était quand même un moment fort pour LR à un moment donné, parce que on sait que LR sont très implantés dans les territoires, notamment les territoires ruraux. On a quand même ces images encore à l'époque d'un Jacques Chirac qui débarque et qui est vraiment mais juste parfait, qui fait vraiment le taf comme personne dans toutes les allées du salon de l'agriculture, qui est adoré. On a aussi un Bruno Le Maire qui finalement était pas si mal en ministre de l'agriculture, qui lui aussi faisait le show au salon, qui bon n'a pas été hué, sifflé comme Marc Fesneau, et qui s'est pris un œuf en plus sur la tête, je crois, là aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que tu penses que finalement, LR et puis la droite, ce qu'était LR auparavant, disons, plus totalement aujourd'hui, puisque c'est difficile même de savoir ce que c'est qu'aujourd'hui, a perdu en fait le monde agricole?
Je ne sais pas s'ils l'ont perdu. Je pense qu'il continue, au contraire, d'être libre. Je ne sais pas si j'ai une... Je peux vraiment te répondre à cette question. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont toujours bien reçus. Mais comme tu le dis, on ne sait plus très bien ce que c'est, en fait. Tu places où la droite? C'est quoi? Effectivement, depuis Chirac, qui tapait sur le cul des vaches, je crois que, même si, effectivement, Bruno Le Maire... Mais tu vois, je ne me souviens pas de séquences incroyables de Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture, par exemple.
Sauf le casse-toi pauvre con.
Mais c'était au salon de l'agriculture?
Eh oui.
Ah, c'était avec les pêcheurs quand il a fait descends.
Tu vois, j'avais mais fait, non, t'as raison finalement. Maintenant que j'y réfléchis, LR n'a pas toujours été le parti acquis aux agriculteurs.
Je crois pas. Non, moi, ce qui m'amuse dans cette séquence, alors déjà pardon, mais ça fait les choux gras des humoristes, hein, parce que c'est fantastique. Ils veulent tous faire la photo avec la vache, tous faire la photo machin. Enfin, pardon, mais allez voir Marc Fesneau avec son agneau sur la nuque. Enfin, pardon, mais c'est la réincarnation de Jésus. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, le ministre de l'Agriculture, je ne sais pas du tout ce qu'il lui a pris, mais Marc Fesneau est mon berger, quoi. Enfin, c'est quand même vraiment des moments de communication très, très drôles. Jean Lassalle qui fait le paquito, ce qui n'a aucun rapport avec l'agriculture, mais néanmoins, voilà, ils en profitent. Donc, pour moi, je retiens, c'est quand même assez rigolo. Mais ce qui est assez marrant aussi, c'est de voir un peu la séquence, tu sais, un peu comme la communication, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. On va promulguer la loi constitutionnelle le 8 mars, le jour de la journée du droit des femmes, comme de par hasard. C'est incroyable, c'est vraiment un truc de communication de mec, quoi, ça. De dire, ouais, c'est bien, c'est fort, c'est symbolique. Mais En fait, on s'en, enfin, pardon, mais peut-être c'est que mon avis, mais moi, je dis, on s'en bat les steaks, pour reprendre un peu le salon de l'agriculture, parce que vraiment, ça n'a aucun. Enfin, on s'en fout que ce soit cette date absolument du 8 mars. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est pas, j'y tiens pas et je pense que ça ne devrait pas, au contraire, être sacralisé. Pour moi, c'est vraiment un truc de mec. Bref, et ben là, il y a d'autres trucs hyper symboliques. Genre, maintenant, c'est le moment des listes européennes. Tout le monde y va de son agricultrice sur la liste européenne, tu vois. Donc, maintenant, la tête de liste, elle, je sais plus si c'est elle, c'est Renaissance, c'est Valérie Aguerre, elle est elle-même issue du milieu agricole. Je sais plus comment ça s'appelle la numéro 2 de la liste LR, mais elle est elle-même agricultrice. Et c'est vraiment, tu sens, c'est aussi la séquence communication. Et je me dis, bon, c'est super, vas-y, on prend ce qu'il y a à prendre. C'est des meufs, elles sont agricultrices, c'est chambé, elles vont faire, enfin voilà, c'est super qu'elles soient là, qu'elles soient exposées, qu'elles le fassent. Mais je trouve que du coup, ça s'arrête un peu sur juste la communication et ça me contrarie un petit peu.
Oui, justement, c'est cool, ça me fait une belle transition pour donner la parole à Gaëlle sur ce sujet et revenir peut-être sur les annonces, en fait, aussi floues soient-elles, parce que là, finalement, en cumulé, depuis fin janvier, il y a eu pas mal d'annonces hein, de la part du gouvernement pour essayer de calmer justement les agriculteurs et puis faire en sorte de ne pas foirer le salon de l'agriculture, sauf que du coup, c'est un échec, mais aussi de ne pas se tirer une balle dans le pied dans la perspective des élections européennes. Sur les annonces, est-ce que toi tu penses, Gaëlle, déjà qu'elles sont bienvenues? Par ailleurs, est-ce que tu penses qu'elles sont de nature à répondre aux revendications de celles et ceux qui cherchent, encore une fois, à vivre de ce métier?
Alors, je pense qu'ils n'auraient pas pu ne rien dire, hein, de toutes les façons. Je pense que c'est quand même vaguement de l'opportunisme, hein, en vrai. Moi, ce que j'ai vu au Salon de l'agriculture, c'est que... Je le savais déjà un peu, mais je me suis vraiment sentie dans un pays dirigé par des cadres du CAC 40. Enfin, le côté « je remonte mes manches », tout ça, là, et on va parler tarifs, j'avais l'impression de voir mon boss au board. Et donc, sur les prix planchers, sur les marges plafonnées, tout ça, c'est des mécanismes de toutes les façons qui sont extrêmement communs. Après, c'est les leviers qu'on y met, et c'est surtout, enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les choses dans leur globalité, c'est-à-dire que le marché des matières premières, par exemple, c'est un marché sur lequel il faut qu'on parle. On parlait de partage de valeur ajoutée, moi. Alors, en effet, je vais peut-être me servir de mon expérience, mais les énormes groupes agroalimentaires qui ne sont pas du CAC, hein, qui sont simplement du SBF 120, c'est un petit peu en dessous, dégagent des profits colossaux, partagent de la valeur ajoutée elle-même avec leurs salariés, tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que le partage de la valeur ajoutée avec les salariés, c'est aussi un moyen de défiscaliser. Donc, tout ça doit être posé sur la table. C'est-à-dire que c'est une ineptie de balancer juste, on va mettre des prix planchers. Parce qu'en effet, si on ne parle pas du cadre, si on ne parle pas du fait que ça peut intervenir après les négociations annuelles, en dernier recours, par une décision arbitraire de l'État en cas d'échec, mais ce qui existe dans d'autres négociations collectives. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est pourquoi on essaye de nous balader dans ce que Adèle appelle de la com. Et je crois qu'on le voit un peu dans tous les sujets. Hein. Et donc, moi, je propose qu'en effet, le 8 mars, on vienne en tracteur. Parce qu'a priori, on aura peut-être les 2 milliards attendus. Voilà.
Et donc, oui, la convergence des luttes, hein, ma foi.
Voilà, intersectionnalité. Mais je trouve que c'est beaucoup d'opportunisme en vue des élections européennes, quoi, en vrai. Et que je ne crois pas, malheureusement, au fait que ces gens-là… Pareil pour l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie, c'est aussi le parent pauvre de cette chose-là. Et donc, on est en train aussi de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que évidemment que les agriculteurs sont, pour la majeure partie des écolos, alors je ne parle pas de ceux qui achètent des moissonneuses-batteuses à 2 millions, mais… On voit bien que là, on est encore face à un État qui essaye de nous perdre quand même. Voilà.
Alors qu'on cesse de nous rappeler, de nous rabâcher que soi-disant les agriculteurs n'aiment pas les normes environnementales, etc. Mais c'est faux en fait, c'est totalement faux. Merci beaucoup Gaëlle et merci pour tes lumières du coup de valeur ajoutée. C'était très utile, si. Merci beaucoup. Alma, tu voulais juste ajouter un petit mot et ensuite on passera à vos petites séquences.
Un tout petit mot parce qu'en fait c'est exactement dans la ligne de ce que disait Gaëlle. En fait. pourquoi il va rien se passer. J'ai alerté les agriculteurs sur le fait de ne pas croire aux promesses d'Emmanuel Macron qui en fait sur tous les sujets en permanence. Le chèque alimentaire qui est un peu connecté quand même directement à cette affaire aussi, il faut quand même savoir que ça fait depuis 4 ans qu'ils nous le promettent, qu'ils le ressortent à chaque crise sociale, qu'ils l'enterrent, qu'ils le ressortent, qu'ils l'enterrent, et là il est définitivement enterré. En fait, Emmanuel Macron, il a un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il met des prix planchers sans encadrer la concurrence internationale et sans encadrer les marges de l'agro-industrie, effectivement, il va aggraver le phénomène d'inflation alimentaire qui est déjà particulièrement sévère pour les Françaises et les Français. Et donc, du coup, pour faire un système plus équitable, il est obligé de toucher aux intérêts de gens de qui il n'a pas envie de toucher les intérêts, c'est-à-dire les gens dont parlait Gaël. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il balade un peu tout le monde. Et moi, je veux dire, sa sortie, quand même, il faut quand même en reparler, parce que celui qui m'a le plus éclaté, celui qui était le plus à côté de la plaque en termes de com', c'était même pas Marc Fesneau et son agneau, c'est Emmanuel Macron qui a dit se cogner la tête en sortant de son carrosse au salon de l'agriculture et qui t'explique que si les Français n'achètent pas des bons produits français, c'est parce qu'ils payent trop cher leur abonnement Netflix. Non, mais on en est là. J'ai diffusé cette séquence sur Instagram. Si vous saviez les commentaires des gens, et pas que de ma base habituelle, je veux dire, les gens sont furieux. C'est-à-dire qu'ils noient le poisson. Évidemment, l'agro-industrie n'existe pas. Il a évité de parler du seul sujet qui compte vraiment dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il se fait des marges sur cette crise qui ne profite à personne. Et c'est encore une fois la faute de ces salauds de pauvres, je suis désolée de le dire comme ça, qui préfèrent voilà, les smicards qui, en fait, cumuleraient soi-disant les Spotify, les Netflix, les abonnements téléphoniques, voilà, et qui n'ont plus d'argent, du coup, évidemment, pour se nourrir correctement. Enfin, on rêve. Et là, cette déconnexion dont il fait preuve souvent sur les sujets comme ça est fortement, fortement inquiétante. Et évidemment qu'on en ressort de ce salon de l'agriculture avec aucune confiance dans les mesures qui vont vraiment être prises. Et comme je dis, et je finirai encore là-dessus, au moment même où il faisait semblant de s'intéresser aux agriculteurs, au Parlement européen, on continue de voter des traités de libre-échange sans mesures miroirs, sans clause de sauvegarde, qui vont nous permettre d'importer en Europe des produits traités avec des pesticides qui sont interdits en Europe. Voilà, c'est ça la réalité.
Oui, c'est sûr. Adèle voulait terminer tout ça sur une note positive, paraît-il.
Non, mais Alma parlait de ce sujet de VOD ou d'abonnement Netflix. Et en fait, c'est pas la première fois qu'il affiche ce genre d'expression qui est quand même pour le moins méprisante. Finalement, les Français, c'est eux qui font le choix de ne pas se nourrir de manière bio, blablabla. Mais la réalité, c'est...
Quel type de mec tu peux être pour imaginer des choses pareilles? Pardon, ça me révolte, quoi. C'est quand même...
Mais c'est le même mec qui te dit de traverser la rue. C'est le même mec qui te dit de faire le tour du port. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne l'a pas vécu et qui reste dans sa tour d'ivoire. Pour moi, c'est certain. Enfin, ceux qui ne sont rien, c'est ça son expression. C'est, voilà, les plus grands qui croient ceux qui ne sont rien dans les cas. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu comme Alma qui remerciait CNews tout à l'heure. Moi, je le remercie d'être allé un petit peu trop loin cette fois-ci. Parce que la réalité, c'est que je pense que là, vraiment, les gens ont commencé à voir en se disant genre... Attends, tu crois vraiment que c'est parce que je paye 7,99€ par mois mon abonnement à Netflix que je ne peux pas nourrir mes enfants correctement? Enfin, je veux dire, moi, ça me donne de l'espoir, parce que si les gens commencent à le voir...
Compter le coup de pub pour Netflix, enfin, désolé, mais...
Non, mais je crois qu'il a dit VOD. Alors après, c'est pas tout exact, okay. Ont été détournés, parce que je crois que l'Élysée a dit que c'était pas les propos exacts. Mais une agricultrice qui y participait, c'était peut-être pas le mot exact, et c'était peut-être pas les smicards, il a peut-être pas utilisé ces termes-là. Mais la réalité, c'est que ce qu'il voulait dire sur le fond, c'était quand même ça. C'est quand même de notre faute. Hein, du pain et des jeux,
mais ça, la culpabilisation des citoyens et citoyennes, ça c'est quand même clair leur sport préféré, quoi, ça c'est sûr. Bon, mais oui, effectivement, t'as raison, peut-être qu'en poussant le bouchon un peu trop loin, ça permettra de faire péter la bouteille, je ne sais pas. Je
trouve c'est positif.
Maintenant, en politique, on dit nous a fait une Oudéa Castéra.
C'est clair. Tellement, oh là là, quoi, vous avez des baskets? Combien d'enfants ont des baskets dans cette classe? Oh là là, ouais, j'avoue, c'est chaud patate. Bon, bref, est-ce qu'on ne terminerait pas avec vos petites infos, vos actus, les trucs dont vous vouliez parler? Gaëlle, allez, hop, on commence avec toi.
Alors moi, c'est un cri du cœur, c'est un cri d'alerte, parce que vous me permettez d'en faire un. Donc je crois que c'est Jean Massier, un collègue à vous, un confrère à vous, qui a parlé sur l'émission, d'ailleurs,
que tu animes aussi. Moi, je suis invalide de niveau 2, atteinte de bipolarité à état mixte. Et je suis maman célibataire. Et je ne peux pas avoir accès aux soins qui devraient être les miens. Quand on voit que votre confrère, par exemple, il a dû aller passer une semaine, un mois en hospice ou des choses comme ça, qui sont des choses assez classiques hein, dans ma maladie. Quand on est une mère célibataire, si on veut être pris en charge, on prend le risque de perdre ses enfants. Et donc, voilà, la bipolarité, ça touche beaucoup les femmes. Et je pense que vraiment, il y a un énorme sujet. Un énorme sujet. Voilà, parce que ces femmes-là, elles ne peuvent pas être prises en charge. Elles n'y ont pas accès. Et ça... Voilà, moi aujourd'hui, je suis mère célibataire, j'ose en parler, mais quand il faut dire mère célibataire plus bipolaire, autant vous dire que je suis à peu près une sorcière. Et que, voilà. Donc vraiment, c'est important de sensibiliser les gens à ça. Merci.
Merci beaucoup Gaëlle, effectivement, c'est un sujet dont devraient, pourraient se saisir peut-être les parlementaires. Donc, Alma, et puis celles et ceux qui nous écoutent aussi, ça mériterait effectivement une commission d'enquête aussi sur la réalité de l'accès aux soins pour toutes et tous de manière égale et effective, un peu comme on en parlait tout à l'heure dans l'IVG. Merci beaucoup, Gaëlle, parce que c'est une prise de parole qui est, j'imagine, pas forcément évidente. Donc, bravo, merci. Et je pense que ce sera aussi utile et c'est très important de dire qu'il y a aussi un aspect genré, une approche genrée à avoir sur ce type de maladie. Donc bravo. Et je pense que beaucoup des auditeurs et auditrices de Popol seront très sensibles à tes propos. Donc bravo, merci encore. Alma, de quoi souhaitais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Pour rajouter dans les sujets compliqués, non, je me dois faire passer un message, une invitation à une grande manifestation qui aura lieu le 9 mars, donc la veille d'une autre grande manifestation dont on a parlé. Une manifestation pour le cessez-le-feu à Gaza. Comme vous le savez sans doute, c'est un sujet qui tient évidemment beaucoup à cœur à la France Insoumise, mais aussi à moi en particulièrement. Je me suis rendue à Rafah il y a quelques semaines. On est en train d'atteindre le point de non-retour, de risque de génocide. On est en train de passer à génocide, puisque maintenant on voit les premiers enfants mourir de faim, littéralement. En plus des 30 000 bombardés, dont 25 000 sont des enfants. Et je cite les chiffres du Pentagone qui reprend évidemment les chiffres du Hamas, et on a encore toujours ces polémiques, mais tous les experts militaires disent que les chiffres du Hamas sont sous-estimés car ils ne prennent en compte que les morts directes des bombardements, en fait, pas les morts dans les hôpitaux, pas les morts de faim, pas les morts de soif, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que si on affame une population depuis début octobre et qu'on ne laisse pas rentrer d'eau, qu'il n'y a plus d'eau potable, à un moment donné, les victimes, c'est plus par dizaines de milliers, mais par centaines de milliers qu'elles vont se compter. Voilà, désolée, c'est un sujet lourd. On en appelle à une manifestation à Paris de grande ampleur parce qu'il faut que la France soit à la hauteur. Il faut que des paroles prononcées par Emmanuel Macron de cesser le feu, on passe aux actes et à la prise de sanctions, à commencer évidemment par l'embargo sur l'exportation d'armes, ce qui est quand même déjà le minimum syndical. Voilà, donc tous ceux qui se reconnaissent dans cette cause, mais évidemment juste dans un principe d'humanité qu'on ne peut pas laisser se dérouler ça sous nos yeux, nous rejoignent, nous soutiennent, enfin pas nous, je ne dis pas la France Insoumise, mais le collectif unitaire évidemment, les associations, les syndicats, tous les partis de gauche qui participent, enfin voilà, c'est très large, ce n'est pas une manifestation France Insoumise, c'est une manifestation citoyenne et la plus large possible, et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci.
Merci beaucoup Alma. On note dans l'agenda pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette manifestation effectivement pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Merci beaucoup. Je sais que aussi en tant que responsable politique, tu t'exposes à beaucoup de menaces en prenant ce type de position et en portant cette parole. Donc merci, bravo. Parce que c'est fondamental et nécessaire. Et effectivement, on ne peut pas rester les bras croisés, puisqu'en fait, on se rend aussi complice d'un génocide. Donc, c'est très grave. Voilà, il ne faut pas, hésiter de le rappeler sans cesse. Donc, voilà, merci beaucoup. Enfin, Adèle, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
J'ai encore un message très optimiste, justement, pour terminer sur un sujet vachement léger, le MeToo cinéma, le MeToo garçon. Je trouve que c'est absolument super ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça terrifiant de se dire que c'est 5 ans après l'autre MeToo qu'on se soit dit « Ah non, mais attends, en fait, c'était pas tout à fait fini, on va faire un MeToo cinéma ». C'était quoi le MeToo il y a 5 ans? C'était déjà dans le cinéma, mais ok. Et en fait, je trouve ça vraiment génial ce que fait Judith Godrèche. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée avec d'anciens collègues et cette petite voix qui dit elle ne faisait pas grand-chose quand même, Judith, à ce moment-là. Elle y voit un petit intérêt quand même, hein. C'est quand même un petit peu étonnant. Pourquoi 30 ans plus tard, quand tu as un trauma, tu mets pas 30 ans à le sortir? Et j'étais là, genre, c'est pas possible. Enfin, alors évidemment, ça venait de garçons, d'hommes, mais je pense qu'il y a des femmes qui peuvent tenir aussi ce discours. Et je trouve ça terrifiant qu'on oublie en fait le temps que ça prend de réaliser un trauma, d'oser le dire. Et qu'en fait, si tu reprends tout ce qu'a fait Judith Godrèche, au contraire, tu as l'impression que depuis 30 ans, elle essaye de le dire dans toutes ses interventions médias, mais que ben, elle ne sait pas comment l'amener. Et ça peut être interprété autrement. Et donc, je pense que c'est déjà très bien de ce qu'elle fait. Et j'ai trouvé ça super aussi, donc, tout le sujet MeToo garçon qui est en train de, enfin, qui arrive aussi par le milieu du cinéma, et aussi les déclarations d'Adrien Borne, l'auteur qui a redit que parler c'était terrifiant, et c'est vrai. Et je pense qu'en plus, là pour le coup, il y a aussi une approche genrée. C'est pas simple non plus pour les mecs, c'est pas simple pour les nanas, mais comme on est beaucoup plus nombreuses, les femmes, à avoir été victimes, je trouve qu'il y a presque un moment difficile pour les garçons. Ce que je trouve super, c'est que ben, là, ça met tout le monde dans une même discussion. Et si les mecs qui pensent que Judith Godrèche dit de la merde, ou en tout cas utilise ça à son bénéfice, ben, s'ils entendent Adrien Borne expliquer que parler c'est terrifiant, que oui ça prend vachement de temps, que lui il n'a pas eu le courage de prendre la voie judiciaire parce que c'est dur, et ben, peut-être que ça aidera aussi des mecs à mieux comprendre les démarches des meufs. Et je voilà, je et ben, je, ben moi ça me donne de l'espoir.
Ben, très bien, en fait, effectivement, ouais, tu as raison, c'est super important. Et puis, bien entendu, il faut accompagner ces moments, ces mouvements. Et puis, ben, force à toutes celles et ceux qui parlent. Et puis, ben, soutien, bien entendu, inconditionnel à toutes les victimes.
Et aux collègues, je me permets juste de rajouter aussi aux collègues d'Alma, aux députés les filles Andy Kerbat, qui a parlé lui-même de son agression. Et je trouve que c'est très courageux, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'élus de la République qui l'aient fait. Donc, bravo.
Merci
Petit
beaucoup.
bisou. C'est un très bon copain. Il est un mec en or, vraiment.
Merci beaucoup à toutes les trois pour vos interventions ce soir sur Popol. C'était vraiment un plaisir et un bonheur de vous recevoir. J'espère que vous avez aussi passé un agréable moment. J'en profite aussi pour faire une toute petite auto-promo parce que je viens de sortir un livre, un manifeste politique et révolutionnaire sous forme de fiction qui s'appelle Au revoir Simone, où j'essaie d'imaginer un futur proche où une révolution féministe advient. Et je m'intéresse en fait au processus de mise en place d'un véritable projet politique qui serait le féminisme. Voilà, donc je me permets quand même de vous en parler si vous le souhaitez le lire et me faire des retours, j'en serais très heureuse. Merci beaucoup, à bientôt sur un nouvel épisode de Popol.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.